Vous êtes sur RTL.
RTL dimanche soir.
Vincent Parisot.
Il est 18h30 et donc pour le rappel de l'info, on accueille Hortense Crépin.
La basilique de Nice retrouve ses fidèles. Une messe de la Toussaint a lieu en ce moment en hommage aux trois victimes de l'attaque au couteau jeudi dans l'édifice. Reconfinement jour 3 en France et les grandes surfaces qui pourraient devoir fermer leurs rayons de produits non essentiels. La mesure pourrait être actée à 20h sur TF1 par le Premier ministre Jean Castex. La fédération de la grande distribution s'y oppose et parle ce soir de sa totale incompréhension. Et puis un vaccin contre le coronavirus avec une efficacité partielle, pas avant le deuxième semestre 2021, selon Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste invité ce midi du grand jury RTL Le Figaro LCI. Il s'attend à un mois de novembre très tendu dans les hôpitaux malgré le confinement avant une décrue. En football, la 9e journée de Ligue 1, victoire de Montpellier 1-0 à Saint-Etienne, 1-0 aussi pour Metz face à Nîmes, 3-0 pour Nice-Angers, 2-1 pour Reims-Strasbourg, 0-0 entre Dijon et Lorient. Et puis la rencontre entre Monaco et Bordeaux, bientôt terminé, Michael Lefebvre.
Oui, à un peu moins d'un quart d'heure de la fin, eh bien Monaco mène toujours 4-0 face aux Girondins de Bordeaux. Des buts de Ben Yedder sur pénalty, Jelson Martin, c'est un doublé de Kevin Volland.
Merci Michael. À 21h, coup d'envoi de Lille-Lyon, ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h. Le quintet, la combinaison gagnante aujourd'hui à Laval, 12, 3, 10, 11, 14.
Merci Hortense, vous revenez à 19h.
Tout à l'heure.
C'est à suivre cette semaine.
Ah oui, c'est à suivre cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours? Évidemment, la mise en place de ce deuxième confinement, il en sera là, pour le coup, vraiment terminé, de la tolérance des premiers jours et notamment de ce week-end de la Toussaint. On attend, je vous rappelle, les précisions de Jean Castex ce soir, notamment pour les commerces et les grandes surfaces. Demain, la rentrée des classes dans des conditions très particulières, sous le signe de l'épidémie de Covid et de l'hommage à Samuel Paty, on va y revenir. On suivra aussi les conséquences du référendum sur la révision de la Constitution en Algérie, organisée aujourd'hui, les suites de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, et puis côté sport, demain le début du tournoi de Bercy, Nadal sera là, mais pas Djokovic, et puis surtout, pas de public. Ce Master 1000 va se dérouler à huis clos. Mardi, ce sera le début des troisièmes rencontres de la phase de poule de la Ligue des Champions. Là, on est dans le football. L'OM qui se déplace à Porto jouera sans doute sa dernière carte pour espérer éviter l'humiliation dans cette compétition. Mais, bien sûr, l'événement planétaire, ce sera dans la nuit de mardi à mercredi, les élections américaines. Bonsoir Lionel Gendron.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant d'RTL aux États-Unis et vous nous ferez vivre cette nuit américaine dans la matinale d'RTL mercredi avec Philippe Corbet et Sinamir ainsi que de nombreux invités. Donc on est à J-2. Donald Trump et Joe Biden continuent d'aller au contact des électeurs dans les États clés. Jusqu'au bout, ils se mobilisent.
Oui, alors là, on est dans des records. Tout le monde trouvait déjà que Donald Trump imprimait un sacré rythme quand il est passé à 3 meetings quotidiens. Aujourd'hui, il va en faire 5 dans 5 états différents et demain 7. À chaque fois avec un public très compact, avec peu de masques, alors que les États-Unis aussi connaissent un nouveau pic d'épidémie. Il a la conviction qu'il peut gagner dans la dernière ligne droite, comme il y a 4 ans. Alors Joe Biden, lui, se concentre aujourd'hui sur la Pennsylvanie, plus précisément sur Philadelphie, où je me trouve. Joe Biden y tiendra 2 meetings en plus petit comité. Alors il a un lien particulier avec Philadelphie, c'est à une cinquantaine de kilomètres de sa ville de Wilmington dans le Delaware. Il avait d'ailleurs établi son quartier général ici avant le coronavirus. Alors preuve de l'importance de cet état, Joe Biden, sa colistière Kamala Harris et leurs conjoints vont quadriller la Pennsylvanie demain pour le dernier jour de campagne.
7 meetings pour Donald Trump demain, des meetings de fin de campagne qui sont vraiment aussi importants que lors des derniers scrutins. Je vous pose la question parce que plus de 90 millions d'électeurs ont déjà voté.
Oui, c'est ça. Alors, pour Donald Trump, il y a peu de chances qu'il puisse convaincre une assistance déjà acquise. Il s'agit surtout, en fait, de saturer l'espace médiatique et éventuellement impressionner son adversaire. Un adversaire qui lui a resserré son angle d'attaque, car ses analystes pensent que sa victoire peut se concrétiser en Pennsylvanie, notamment en mobilisant l'électorat noir pour le jour du vote. Car les démocrates commencent, vous le disiez, à faire passer un message délicat, à 2 jours du scrutin, dans certains états, mieux vaut ralentir les envois de bulletins par la poste, car ils pensent qu'il peut y avoir un afflux de bulletins anticipés qui créerait un embouteillage pour le décompte et qui donnerait ainsi à Donald Trump une occasion de contester le vote.
Ah bah tiens, on va y revenir. Merci beaucoup Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL. Je dis on va y revenir parce qu'on reçoit Laurence Nardon. Bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Je vais vous poser la question directement. Est-ce que les jeux sont déjà faits ?
Ils sont déjà à moitié faits, puisque comme vous le disiez, 90 millions d'Américains ont déjà voté aujourd'hui, que ce soit par correspondance ou dans des bureaux de vote en se présentant à l'avance. Donc ce qui reste à faire pour les deux candidats, c'est d'essayer de convaincre d'éventuels abstentionnistes ou indécis, 5% d'indécis qui restent, de se déplacer d'ici mardi.
Alors, je vous posais la question, est-ce que les jeux sont déjà faits? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore un doute réel sur la victoire de Joe Biden?
Ah oui, mais absolument. Il ne faut surtout pas penser que Joe Biden est déjà élu. Parce que, comme en 2016, la victoire va se faire par le décompte des grands électeurs dans les 50 États, on sait ça. Et il suffirait que par une mobilisation de dernière minute ou de mauvais sondages, Trump gagne en Pennsylvanie ou en Floride, ces fameux États flottants qui sont une demi-douzaine dans le pays, pour faire la surprise à nouveau. Mmh. Alors, je vous accorde que c'est moins crédible que ce qui s'est passé en 2016.
Mais en 2016, personne ne l'avait vu venir quand même.
Non, parce que les sondages de 2016 prédisaient qu'Hillary Clinton allait gagner avec 2,5 millions de voix d'avance. Elle a gagné avec 3 millions de voix d'avance, sauf que ces sondages n'étaient à l'époque pas assez précis pour voir comment ça se passait dans ces fameux 50 États différents. Cette année, ce qui se passe, c'est que d'une part, les sondages ont modifié leur méthodologie. Maintenant, c'est beaucoup plus fin, enfin on espère. Hein. Notamment, ils différencient quand ils passent des coups de fil entre les coups de fil sur ligne fixe ou sur ligne portable, parce que c'est pas la même sociologie. Enfin, des choses très pointues, on rentre pas dans les détails. Il y a déjà cette évolution-là. Et puis l'autre évolution, c'est que les résultats de ces fameux sondages donnent beaucoup plus d'avance à Biden. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il mène 52 contre 43 à Trump dans les sondages nationaux. Et dans les sondages par État, il est aussi en avance dans pas mal de ces États flottants.
Quand vous dites 52 contre 43, on se dit que ça ne fait pas 100%. C'est parce qu'il y a deux autres candidats ?
Il y a deux autres candidats, un libertarien et une écolo, mais qui ne sont pas présents dans tous les États, parce que le système aux États-Unis est vraiment bipartisan. Donc les petits candidats, troisième ou quatrième candidat, ne sont pas partout. Non, les 5% qui restent, c'est ces fameux 5% d'indécis. Aussi.
Et ceux-là, ils peuvent basculer d'un côté ou d'un autre.
C'est bien pour ça que Trump a fait 7 meetings aujourd'hui, c'est pour essayer de les sortir.
Donc on vous comprend bien que le scénario de 2016 n'est pas à écarter totalement, et évidemment il faudra suivre ça, et notamment ces états clés. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité que Donald Trump ne reconnaisse pas sa défaite, si défaite il y a dans les urnes mardi soir?
Alors, le truc c'est que mardi soir, on aura très probablement pas de résultats définitifs.
On ne pourra pas donner le nouveau président des États-Unis.
Sans doute pas, parce que comme il y a beaucoup de votes par correspondance, ça met plus de temps à être dépouillé, et donc il y a des États qui n'ont le droit de commencer à dépouiller que le 3 au soir, puisque c'est un système fédéral, chaque État a sa propre procédure électorale, c'est épouvantablement complexe. Bref, le scénario catastrophe, ce serait un scénario où Trump aurait soit la victoire indiquée avec quelques voix, pas toutes les voix mardi, et déjà il annonce sa victoire. Et puis, quelques jours plus tard, on se rend compte qu'en ayant tout compté, c'est Biden qui est élu. Alors qu'est-ce que ferait Trump? Est-ce qu'il reconnaîtrait qu'il s'est trompé? L'autre scénario catastrophe, c'est une avance très faible de Biden mardi soir, qui là aussi permettrait à Trump de dire non, c'est faux, c'est moi qui ai gagné, il y a de la fraude électorale. Enfin, il y a des scénarios avec ce personnage quand même hors norme qu'est Donald Trump qui sont à évaluer d'ici la semaine prochaine.
Voilà, ça nous annonce une belle nuit électorale, une belle matinale, notamment sur RTL. Et puis on suivra ça de très près parce qu'on l'a compris, les jeux ne sont pas faits. Merci beaucoup Laurence Nardon. Je rappelle que vous êtes la responsable du programme Amérique du Nord à l'Institut français des relations internationales. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, regardez ce qui va se passer demain matin dans les écoles de nos enfants. Ça aussi, ce sera à suivre cette semaine.
C'est à suivre cette semaine.
Ah, ça aussi, c'est à suivre cette semaine. La rentrée des classes après les vacances de la Toussaint, les contraintes sanitaires et sécuritaires la rendent particulièrement compliquée. C'est aussi une rentrée, évidemment, marquée par l'hommage qui sera rendu au professeur assassiné Samuel Paty. Bonsoir, Marie Guerrier.
Bonsoir.
Alors, première chose, la rentrée, finalement, elle aura lieu demain aux horaires habituels. Hein.
Oui, il avait d'abord été décidé mardi dernier de la décaler à 10h hein, pour tous les élèves, afin de laisser aux profs le temps de se retrouver et de préparer l'hommage à Samuel Paty. Mais ensuite, eh bien, le reconfinement a été décrété avec un protocole sanitaire durci. Réunir tous les profs alors qu'on demande de limiter brassage et contact, ça n'apparaissait plus très judicieux. Et puis il y a eu l'attaque de Nice et un renforcement du plan Vigipirate. Faire venir tous les élèves en même temps à 10h, cela voulait dire beaucoup de monde regroupé devant les établissements, trop risqué. Jusqu'à nouvel ordre, les arrivées doivent être échelonnées à l'école pour des raisons sanitaires et les élèves doivent rentrer rapidement à l'intérieur des bâtiments pour des raisons sécuritaires.
Donc une rentrée qui va se dérouler aux horaires normaux, aux horaires habituels, mais il y aura bien un hommage rendu aux professeurs de Conflans. Hein.
Oui, une minute de silence à 11h, précédée de la lecture de la lettre que Jean Jaurès a adressée aux instituteurs et aux institutrices en 1888. C'est une ode à la mission des enseignants. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, lire, faire une addition, ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, écrivait notamment Jean Jaurès. La minute de silence ne sera pas organisée en maternelle, les enfants sont trop jeunes. Pour les autres niveaux, elle se tiendra de préférence dans les classes pour éviter le brassage des élèves.
Mais alors que devient cette séance d'échange qui devait avoir lieu avec les élèves ?
Alors les profs qu'ils souhaitent peuvent tenir cette séance demain matin, hein, avant l'hommage, mais elle pourra aussi se dérouler n'importe quand dans le courant du mois de novembre. Il s'agit de revenir sur le drame de Conflans, de répondre aux questions des élèves et puis surtout de rappeler les valeurs de la République et de l'école. Et pour ça, le ministère de l'Éducation nationale a mis des ressources pédagogiques à disposition, et notamment une vidéo qui a été mise en ligne aujourd'hui sur le site du ministère, enregistré par des joueurs de l'équipe de France de foot.
Et une dernière chose, Marie, sur le protocole sanitaire. Il y a un changement majeur pour les élèves de primaire, on en a d'ailleurs parlé dans le journal, c'est le port du masque, ils devront le porter toute la journée.
Oui, et il faudra donc veiller à ce qu'ils le portent correctement, en classe comme en récréation. L'école va devoir gérer le changement de masque à la mi-journée pour ceux qui mangent à la cantine, prévoir des poubelles spécifiques pour les chirurgicaux, et pour ceux en tissu, eh bien, les parents devront penser à un petit sac qui contiendra le matin le masque de rechange de l'après-midi. Et donc ensuite, on mettra le masque utilisé le matin dans le petit sac. En cas d'oubli ou pour les familles les plus démunies, l'Éducation nationale fournira des masques. 9 millions ont déjà été distribués en collège et lycée depuis la rentrée.
Merci Marie Guerrier, c'est bien noté. Bon courage à toutes et à tous donc, hein, pour demain matin. Et cette rentrée, on vous la fera vivre évidemment demain matin dans la matinale d'Yves Calvi sur RTL. Courte pause dans un instant, Autoradio. On va faire le plein et s'inquiéter pour l'avenir des petites stations-service. À tout de suite.